Les poches sous les yeux, l'interview, en partenariat avec la boîte à livres.
Aurélien Bélanger a débarqué avec fracas dans le paysage littéraire français avec La théorie de l'information, paru aux éditions Gallimard. Roman balzacien pour les uns, héritier de Houellebecq, roman d'aventure, initiatique, philosophique. La critique est en émoi dans sa tentative désespérée de ranger ce livre de 500 pages dans la bibliothèque de plus en plus branlante des genres littéraires. Sans nul doute que La théorie de l'information est tout cela à la fois et en même temps complètement autre chose. Pour nous en parler, je reçois l'auteur de ce roman inclassable, Aurélien Bélanger. Bonjour.
Bonjour.
Alors selon vous, quelle serait la meilleure façon de résumer ou de présenter ce roman, La théorie de l'information ?
Bon, on pourrait dire que c'est un roman qui croit au roman en tant que genre sans les genres, genre au-dessus des genres ou... Bon, ça c'est la partie ambitieuse, genre au-dessus des genres, ou plutôt système de décloisonnement des savoirs et l'un des uniques et des plus pertinents espaces où on peut confronter discours scientifique, discours moral, discours tout type de discours qui sont pas ailleurs, partout en conflit, et dans le roman on peut les tenir, prendre une photographie quasiment du paysage intellectuel.
Pour vous, la théorie de l'information a vraiment sa place dans la catégorie roman? Je dis ça par rapport à certaines critiques qui estiment que votre livre n'est pas forcément un roman.
Bah disons qu'il y a beaucoup de pièges, mais bon, j'en suis conscient. C'est une biographie assez suivie d'une personne qui a réellement existé. Donc bon, c'est pas un roman, ça parle beaucoup, beaucoup. Il y a des parties, on dirait un essai sur l'histoire de la théorie de l'information. Donc c'est un essai, c'est pas un roman. Enfin, il y a beaucoup de choses qui fait que c'est pas un roman. Et ensuite, le grand argument de la théorie de l'information, on peut se demander si c'est pas un argument métaphysique plutôt qu'un argument existentiel, définir le caractère d'un personnage, etc. Sauf qu'en fait, moi je m'en sors en disant que déjà j'ai rien contre le thème, enfin l'idée que c'est un roman avec un argument métaphysique. Borges a écrit d'excellentes nouvelles qui sont de la littérature clairement et pourtant dans lesquelles il n'y a pas de personnage. Mais ensuite, moi ce qui m'a intéressé, c'est moins l'aspect théorique ne m'intéresse que quand je peux le rapporter à la croyance possible de mon personnage principal. Donc certes, je parle énormément de théorie de l'information, mais j'en parle beaucoup parce qu'il est important que mon personnage y croit d'une façon très particulière, qui est sa grande erreur, c'est qu'il y croit, non pas comme une théorie scientifique, mais comme une théorie religieuse, donc il se trompe de champ. Mais du coup, cet environnement théorique, il est quand même... il peut apparaître brut, mais en fait, il est filtré. Donc finalement, c'est pas un roman, c'est pas un essai, c'est un roman qui raconte l'âme de son personnage principal. Donc même si c'est bizarre, et présenté bizarrement, ça a été vraiment, en tout cas, ça a été le but dès le début, ouais. J'ai pas mis roman à la fin pour décorer un essai déguisé, c'est ce que je veux dire.
Et alors, cette idée de raconter 30 ans d'ère numérique, ça vient d'où ? Est-ce que c'est un intérêt depuis toujours pour les technologies, ou alors une prise de conscience plutôt d'adulte de ce qui pourrait ressembler à un genre de transformation de la société ?
Bon, y a un peu de tout. Moi, quand j'étais petit, je m'intéressais aux histoires de robots, sans doute à cause des dessins animés que je voyais massivement à l'époque, et puis... Les machines ont un rôle important dans ma vie, ça c'est l'aspect biographique. Ensuite, d'un point de vue romanesque, c'était très intéressant parce qu'on est face à une accélération incontestable du progrès. Donc il s'est réellement passé, on pourra contester, je sais pas, que le 21e siècle commence avec le 11 septembre ou avec la chute du mur de Berlin, on pourra contester plein de choses, on ne pourra pas contester la délirante accélération des technologies de l'information et de la communication au tournant du 21e siècle. Donc là, j'avais une histoire quasiment irréfutable. Il se passait quelque chose, ça avait été très peu raconté. Que sont ces nouveaux objets? Qu'est-ce qu'ils apportent? En quoi ils modifient la vie? Et puis surtout, quel rêve ils portent et quelle métaphysique ils portent?
D'accord. Et pour parler maintenant de l'écriture même du roman, ce style, alors je ne sais pas comment vous le qualifiez, on peut dire ce style neutre de l'écriture, est-ce que c'est... ça a été un choix délibéré pour servir votre propos, ou quelque chose qui s'est imposé naturellement, pas forcément à votre insu, mais en tout cas sans véritable parti pris littéraire?
Non, ça s'est imposé assez vite, parce qu'il y a cette idée, quand on a beaucoup de choses à raconter, la question du style, elle est un peu secondaire. Mais du coup, il s'est posé une question, pas tant au niveau de l'écriture qu'au niveau surtout des réécritures nombreuses que j'ai faites, c'est... cette question de tenir quelque chose, tenir cette sorte de beauté invisible qui serait l'élégance structurelle des phrases. Je sais pas si j'y parviens, mais il y a un moment où le sujet, c'est pas de mettre de la beauté, Le sujet, c'est juste de répondre comme un ingénieur qui fabrique un pont pour aller d'un point A à un point B, quoi. Il faut qu'il économise sa matière, et tous ces principes d'économie et d'ingénierie appliquée vont faire que son pont a de très bonnes chances d'être très beau, alors que c'est pas du tout ce qu'il a cherché. Donc moi, j'avais cette idée de relier ce point A à ce point B. À chaque fois, il fallait que je fasse avancer la trille, il fallait que je raconte des trucs. Et puis il y a ce côté, le roman, on se confronte à un prosaïsme, ce fameux Lamarquise sorti à 5h qui rebute beaucoup de gens dans le roman, et ils veulent pas aller dans le roman parce qu'ils disent « Oh là là, je vais devoir dire, il prend sa voiture, il va de là, etc. » Ça va être très pénible. Bah moi, justement, tout le défi, ça a été de me dire « Non, c'est la partie prosaïque du roman, on peut l'habiter, parce que même le prosaïsme au sens la prose du monde, le côté un peu pénible, sans intérêt des choses, on peut le raconter avec une certaine élégance, une certaine tenue. » Et du coup, voilà. Donc j'ai essayé un peu, en termes de poker, de slow-player le style et de faire genre « j'ai pas de style », mais en fait, les préoccupations stylistiques, elles étaient obsessionnelles, elles étaient majeures. J'avais que ça en tête. J'ai réussi ou j'ai pas réussi, ça c'est autre chose, mais ça a été mon obsession, quoi. En tout cas, pendant les réécritures nombreuses.
D'accord. Et du coup, alors, nous donner le sentiment d'un monde qui tend à la déshumanisation, ou en tout cas, le schéma de communication explose par le prisme de notamment de l'objet numérique, et les personnages eux-mêmes semblent désincarnés dans leur fascination du pouvoir sur la machine et par la machine elle-même. Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'on peut comprendre ou en tout cas essayer d'interpréter le personnage de Pascal Ertonger?
Oui, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de psychologie et qui est en retrait. Donc non, mais c'est un thème qui m'intéresse, parce qu'on parle beaucoup d'Internet comme une nouvelle renaissance. Mais qu'est-ce que c'est que la renaissance? C'est mettre un peu l'homme au centre de l'univers. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'homme au centre de l'univers, c'est plus un problème à la limite, et que l'homme n'est pas à la hauteur des enjeux techniques. On découvre plein de choses. On a de l'admiration pour l'homme pour une raison très simple, c'est que son cerveau, on ne sait pas le limiter, et que pour l'instant, c'est l'objet technique le plus compliqué qu'on connaisse. Donc on fait de la rétro-ingénierie du cerveau pour essayer de fabriquer des machines de plus en plus performantes. Donc c'est les gigantesques progrès de la neuroscience n'ont pas pour vocation de servir l'homme, ils ont pour vocation en fait de pirater l'homme pour donner ces techniques qui a mis plusieurs milliards d'années à émerger avec le processus lent de sélection de l'évolution, et d'essayer de reproduire une évolution plus rapide pour les machines. Donc il y a cette question, il y a un vrai déplacement. Et l'homme cesse d'être un enjeu, et en même temps cesse d'être un enjeu, mais devient l'unique combustible de cette révolution. On parle beaucoup de Facebook en ces termes, on dit que quand c'est gratuit, c'est que c'est vous qui êtes le produit. Facebook, c'est une sorte de truc, ce que je raconte à un moment, c'est quelque chose d'informe, mais qui devient vivant parce que l'homme lui prête sa vie. Donc l'homme demeure quand même, malgré tout, l'ouvrier principal de cette transformation. Mais il est peut-être en train de servir, et c'est l'un des grands thèmes du roman. J'essayais de pas en faire trop parce que c'est un côté apocalyptique chelou, mais est-ce que les machines sont pas déjà en train de tirer les ficelles? Il y a quelque chose que j'aime beaucoup d'un théoricien de ces questions, il s'appelle George Dyson, qui a écrit Darwin Among the Machines, un bouquin qui est sorti une quinzaine d'années justement sur l'émergence d'Internet, où il fait cette fiction que je trouve géniale. Il imagine une machine qui, dans le futur, disons en 2050, accède à l'intelligence, et on va interroger cette machine: mais alors depuis quand tu es intelligente? Et elle va pas répondre depuis maintenant, elle va répondre: je suis intelligente depuis que le premier silex biface a été taillé par un homme préhistorique. L'histoire des machines, même si c'est bizarre de dire, même si c'est pas conscient, elle a probablement déjà commencé, de même que l'homme n'est pas devenu conscient d'un seul coup. C'est un processus comme ça infinitésimal. Donc cette histoire des machines, qu'on le veuille ou non, elle a commencé. Elle est extrêmement liée, parce qu'il ne faut pas exagérer, c'est pas des robots, c'est pas la guerre des robots contre les hommes. Les interdépendances sont terriblement fortes, et sans hommes, les machines ne survivront pas. Mais par contre, les machines ont déjà réussi cette prouesse qu'on ne peut plus les éteindre. C'est plus possible, il n'y a plus d'interrupteur, on ne peut plus décider de se passer d'électricité, par exemple, parce que ça coûterait trop cher en vie humaine, et puis parce qu'on a plein de technologies qui font des réacteurs nucléaires aux hôpitaux, où si on coupe les machines, on va tuer des hommes. Ouais. Donc, je voulais raconter cette dépendance.
Ouais. Et d'ailleurs, justement, vers la fin du roman, vous évoquez les réseaux sociaux, notamment Facebook, comme une activité, donc là je vais vous citer, la plus sérieuse de toutes, entre affirmation identitaire et relâchement narcissique. Les milliards de pages Facebook offraient un résumé complet de l'humanité et garantissaient, dans l'hypothèse de son extinction soudaine, sa restitution complète. Ce serait pas terrifiant qu'une histoire d'humanité naisse à partir des réseaux sociaux?
Bah voilà, non, c'est tout le défi, mais c'est un défi de science de l'information. C'est est-ce qu'à partir de l'information vraiment souvent catastrophique, et en tout cas très fragmentaire, qu'il y a sur les réseaux sociaux, on a assez d'éléments pour refabriquer la vie dans toute sa diversité? C'est vraiment le schéma de Shannon. Le message, est-ce que du message on peut remonter vers la source? C'est une possibilité que je laisse ouverte dans le bouquin. Mais ensuite, avec les réseaux sociaux, on revient sur ces questions, parce que qu'est-ce que c'est qu'un réseau social? C'est un très très gros logiciel qui utilise l'intelligence humaine pour s'améliorer. Ouais. Donc c'est déjà une entité comme ça. Bon, c'est une entité économique, c'est une entité à plein de titres. C'est pas loin d'être une entité vivante, c'en est pas vraiment une, mais il y a quelque chose. Et bon, là, c'est de la partie purement fictionnelle du bouquin. Je raconte quasiment que c'est comme un ruban tumouche, quoi. Ça nous a eu grâce à notre narcissisme et notre vanité, et puis ça nous a attrapé, et puis on s'est fait piéger, quoi. Bon, ça, c'est de la partie clairement romanesque, parce que je ne pense pas que Facebook, ce soit une entité consciente, mais c'est un grand mythe de la science-fiction, de Skynet dans Terminator, etc. L'apparition d'entités conscientes au sein du réseau, même si c'est probablement pas sous la forme conseil, que ça n'arrivera probablement jamais, reste pour moi l'un des grands, grands mythes de Ghost in the Shell à Neuromancien Gibson, reste pour moi l'un des plus beaux mythes de ces 30 dernières années. Oui.
Alors, et justement, à la lumière de votre roman, est-ce que vous pensez que du coup, la politique telle qu'on la connaît puisse encore être un pouvoir efficace? Autrement dit, en s'engouffrant ainsi elle-même dans l'espace numérique, notamment les réseaux sociaux, est-ce qu'elle ne deviendrait pas la victime de ce qu'elle pense pouvoir maîtriser?
C'est très compliqué. Moi, il se trouve que je suis très peu impliqué dans le champ démocratique. Hein, je le reconnais, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et je suis content que des gens fassent le boulot pour moi. Donc, je suis vraiment très, très pour la démocratie représentative. Ensuite, l'une des fois où j'ai été le plus... quand il y a eu des débats sur la neutralité du web, par exemple, là, d'un coup, je me suis retrouvé un peu impliqué. Donc, c'est amusant de voir que même moi, qui ne suis vraiment pas du tout un terreau favorable sur des questions d'économie, enfin de liberté numérique... J'ai réussi un peu modestement à me mobiliser. Donc il y a cette question. Ensuite, c'est cette question. Oui, je pense que les clivages vont exploser. L'un de ceux qu'on parle le mieux, même s'il a incontestablement politiquement plutôt mal tourné, c'est Dantec, hein, l'opposition droite-gauche. Pour lui, a cédé devant l'opposition entre techno-utopiste et réactionnaire d'obédience écologiste. Freeman Dyson, le père du type que je citais tout à l'heure, George Dyson, le grand physicien, explique lui qu'en gros, il va se passer une scission de l'humanité entre bah, justement les écologistes conservateurs qui conserveront la planète et les écosystèmes tels qu'ils sont, et les techno-utopistes qui partiront dans l'espace. Ouais. Donc là, il me semble qu'il y a une ligne de front qui est très forte, qui est encore émergente, mais qui va balayer l'opposition droite-gauche telle qu'on la connaît, parce que les conservateurs sont pas vraiment sérieux. Personne croit que les conservateurs. Enfin, il y a cette blague très très drôle de cet auteur anglais dont j'ai oublié le nom. Je sais plus, c'est Coleridge ou. Enfin bref, qui dit les conservateurs ne veulent pas, en gros, revenir en arrière sur les. Ne veulent pas, enfin, corriger les erreurs que font les réformateurs. Donc voilà, cette espèce de blocage comme ça. Bon, il y a cette question. Ensuite, après, la grande question politique, c'est la grande question de ce que posait Léo Strauss, etc. C'est la question de l'universalité des classiques. Les modernes n'ont pas bien compris à quel point ils se sont. Enfin, je parle dans des considérations compliquées, mais il y a une sorte de piège génial qui est tendu aux progressistes, c'est que ce qu'a bien montré Léo Strauss, c'est que tout progressiste porte sa propre réfutation, parce qu'il pense que la pensée politique et sa pensée politique est supérieure à la pensée politique des Grecs. Quoi. Disant ça, il part du principe qu'aucune pensée politique n'est universelle, donc la sienne non plus. Donc voilà, il y a cette question. Est-ce que sur le seuil du post-humanisme, ou à une époque où le clonage ou des choses comme ça sont possibles, ou même la reproduction in vitro, ou même, si vraiment je suis caricature, ou même l'avortement est possible, et subventionné par l'État, est-ce que les questions politiques ont le même sens? Est-ce qu'on n'est pas déjà... est-ce qu'il peut y avoir une universalité? Est-ce que l'universalité dont parle Platon dans La République, elle est encore applicable aujourd'hui? Moi, je ne peux pas me prononcer sur ce débat. C'est un débat qui est compliqué, mais il me semble... Enfin, c'est pour ça, moi, j'aime bien Houellebecq pour ça. J'aime bien Dantec, parce que je les ai lus clairement comme des auteurs qui avaient une grande pertinence politique quand je les ai découverts il y a une dizaine d'années. Hein, parce qu'ils posaient les questions jusqu'à... Enfin, bon, c'est vraiment un débat piégé. Hein, je ne sais pas pourquoi je me lance dedans, mais à partir du moment où on tolère l'euthanasie, quelle est la limite? Et effectivement, la limite, clairement, elle n'existe pas. Donc on peut être dans une société d'un progressisme absolu. Moi, je ne suis pas du tout conservateur. Mais le conservatisme me semble plus solide, bizarrement. Donc, c'est pour ça qu'après, cette position de scission de l'humanité en deux entités, ça me semble complètement farfelu, mais ce n'est pas débile. Enfin, je ne peux pas m'empêcher. Et je finis là-dessus en disant que Freeman Dyson évoque le... Quand il parle de ça, il évoque les migrants du Mayflower, ouais, qui étaient vraiment partis pour des questions de divergence idéologique forte avec les Anglais. Ouais. Ils ne sont pas du tout partis pour conquérir un nouveau monde, ils sont partis parce que c'était plus possible pour eux de vivre là. Donc ce n'est pas impossible qu'il y ait des nouveaux migrants du Mayflower. Et Freeman Dyson finit sa métaphore en disant que par rapport au risque encouru par ces hommes qui sont partis sur un bateau vers une terre inconnue peuplée de sauvages où on ne savait même pas naviguer à l'époque, le risque des programmes Apollo, c'est rien du tout, quoi. Neil Armstrong était beaucoup plus en sécurité que les migrants du Mayflower. Donc faut pas non plus, voilà, faut pas. Bon voilà, je suis un peu long et sur ce sujet, mais.
Et alors du coup, pour dévier un peu, mais en revenir à une autre institution de l'humanité, qui serait la littérature. De votre point de vue de romancier, quelle importance vous lui conférez à la fois en tant que lecteur et aussi en tant qu'auteur ?
Alors, je l'évoque à plusieurs reprises dans le bouquin, mais je ne me suis pas prononcé très clairement dessus. Et je pense de plus en plus que la littérature est quelque chose d'universel au même titre que les mathématiques. Moi, j'ai été vraiment bouleversé par la nouvelle de Borges, la bibliothèque de Babel, qui en fait... pour résumer le platonisme en mathématiques, qui est contesté, hein, mais le platonisme mathématique, c'est qu'en gros, on ne fait que découvrir des choses préexistantes et que les mathématiques existent comme une sorte de continent logique préexistant. Borges transfère la même chose dans le champ littéraire. Il imagine que tous les livres ont déjà été écrits, la réfutation de tous les livres, le catalogue de tous les livres, le livre qui dit que le catalogue n'écrit pas, etc. Et bien ce platonisme littéraire, finalement, je ne suis pas loin d'y croire, ou du moins, je pense quelque chose d'un peu intermédiaire, mais je pense qu'il peut exister, que la littérature, par exemple, même si l'homme disparaît, s'il reste que des machines, la littérature restera, parce que la littérature n'est pas strictement une activité humaine. Elle l'est, incontestablement, mais elle est un peu plus universelle que ça. Bon voilà, c'est des idées que je développe, enfin, bon, je ne suis pas sûr à 100%, mais c'est une intuition forte que j'ai. Et la théorie de l'information, je me suis amusé... à mettre des petits morceaux de texte de Google Translate, des petits morceaux de texte extérieurs, des petits bouts de programme, parce que je crois à la je crois qu'aux manipulations de signes, il y a les mathématiques. C'est sans doute moins profond que les mathématiques, les littératures, mais en tant que manipulation de signes, avec quand même plus d'ouverture sur le monde, c'est quelque chose qui n'est pas vain et c'est quelque chose qui est universel. Je pense que les civilisations extraterrestres, si elles existent, font de la littérature, par exemple. Je pense qu'elles font des mathématiques, je suis pas sûr qu'elles mangent, par exemple. Je suis pas sûr que d'autres choses.
D'accord. Et alors du coup, après avoir écrit un roman aussi conséquent, est-ce que vous pensez déjà au prochain ?
Ouais, j'ai quasiment commencé. J'ai envie qu'il y ait des personnages. Là, il n'y en a pas beaucoup dans la théorie de l'information. Et du coup, j'ai créé hier et avant-hier des fiches Bristol avec des personnages et je sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais je sais très clairement ce que j'ai envie de raconter et là je suis en train de mettre sur fiche tout ce que j'ai envie de dire et du coup je commence à voir apparaître des proto-histoires, parce que si j'ai envie de dire ça et si tel personnage fait ça, donc ça commence à prendre forme. Après il faut y aller parce que c'est pas marrant, le début en tout cas pour écrire un livre, c'est pas marrant, quoi. On se trouve assez vite nul et on se découvre et on se heurte très 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 vite et très 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 fort à ses propres limites mentales, donc va falloir y aller. Je me suis donné le 1er janvier, mais là j'ai probablement un peu plus commencé que je croyais, puis surtout le sujet sur lequel je l'ai trouvé il y a plus d'un an et demi et j'y ai pas touché et il s'est pas encore démenti, donc a priori c'est un bon sujet, donc je suis au stade où j'ai hyper envie d'y aller, mais comme j'ai très très peur parce que je sais que l'eau est très froide et que ça va pas être marrant, je veux pas plonger. Parce que ouais. C'est ce stade en fait où c'est plus facile de rêver de l'œuvre que de s'y lancer, parce que quand on s'y lance on voit plus que les problèmes. Là pour l'instant je vois encore le truc comme ça, ça a l'air pas mal, donc ça va, ma veine n'est pas épuisée.
Et ce sera encore une démarche avec une vision un peu visionnaire, parce que c'est quelque chose qu'on peut à mon avis appliquer à la théorie de l'information, c'est-à-dire vous parlez dans la théorie de l'information de cette idée de la post-humanité, et où finalement on a l'impression que vous parlez de 30 années qui se sont écoulées, et en même temps quand on vous lit on a presque l'impression d'être dans un roman d'anticipation.
Il y a des éléments, ça c'est le lecteur obsessionnel de Balzac qui parle, c'est je crois au fantastique en littérature à une seule condition, c'est qu'il soit appuyé sur une base réaliste solide, et qu'il faut qu'il y ait 99% de réalisme pour qu'il y ait 1% de fantastique. Donc la théorie de l'information, je me suis amusé à mettre un peu de fantastique parce que j'aime bien, mais en le tenant comme ça, en le retenant. Et non, mon prochain roman, il y aura normalement il y aura quelque chose de cet ordre-là. Bon, je vais pas en dire trop, mais l'angle sera beaucoup plus fermé, ce sera vraiment une unité de lieu, une unité d'action, mais l'angle en fait sera beaucoup plus grand. Donc voilà, c'est bizarre d'en parler parce que si je le fais pas j'aurais l'air con.
Alors la théorie de l'information, c'est donc un roman qu'on se gardera bien de chercher à classer. Merci Aurélien Bélanger, bon courage pour la suite.
Merci beaucoup.